piquets de grève un peu partout, les piquets de terroristes, mais tout le monde s'en fout, parce que les ouvriers, qui s'intéressent, personne, là-bas comme ici. Et un jour, une banque a une difficulté pour donner de l'argent aux gens qui viennent récupérer, et le système commence à s'effondrer. Et à ce moment-là, toute la pourriture, la paralysie, l'incapacité absolue des élites de cette société, de l'oligarchie qui les tient, à régler les problèmes, apparaît au grand jour et surgit le mot d'ordre « que se vayan todos », allez-vous-en tous, qu'ils s'en aillent tous. Mais c'est tous, hein, ils ne pouvaient plus en voir un seul. Et ensuite, pour des raisons qui sont assez spectaculaires à constater, sans qu'il n'y ait aucun chef d'orchestre, dans tous les pays où des situations de ce type se sont reproduites, le mot d'ordre est revenu tout seul. Les gens criant dans la rue, que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous, tous dehors, enfin bon, avec des variantes. Si moi ça m'a fasciné, c'est parce que l'Amérique latine nous a appris beaucoup de choses et qu'elle est passée par des cycles qui sont un miroir avec les nôtres. Tout le monde se souvient dans ma génération du rapport entre l'unité populaire de Salvador Allende et l'union de la gauche en France. Donc, on voit qu'il y a toujours eu une certaine gémellité, on peut dire, avec l'Amérique latine politique, des cycles décalés de l'un et l'autre côté de l'Atlantique, mais pour des raisons qui sont de fond et pas simplement exotiques. C'est que l'Amérique du Sud, on ferait mieux de dire Amérique du Sud qu'Amérique latine d'ailleurs, parce qu'il faut inclure les Indiens dedans, a une longue tradition qui est liée aux Espagnols, donc au droit romain écrit, et aux habitudes de la démocratie locale. On se souviendra jamais assez que Cortés, débarquant au Mexique, brûle ses bateaux et se fait élire maire de l'ensemble des gens qui sont descendus du bateau. Et c'est à ce titre qu'il agit au nom du roi d'Espagne, Charles Quint, et de Dieu, comme il le dit sans cesse. Donc il y a une culture de l'État, une culture du droit écrit, une tradition révolutionnaire liée à l'esprit des Lumières, comme les Français en particulier, qui fait de ces peuples, évidemment des peuples différents de nous, à mains égards, mais qui ont une espèce de courant profond culturels qui nous rattachent.
Et puis ils ont été à l'avant-garde en matière de néolibéralisme, au Chili notamment, lorsque Pinochet a choisi Milton Friedman et les Chicago Boys pour faire son économie politique en 73.
C'est là le fond de l'affaire. C'est la conjonction des Chicago Boys arrivant en Amérique latine qui a été leur laboratoire, dans la mesure où les Américains réglaient à coup de matraque les résistances. Et du FMI, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le FMI de Michel Candessus, qui a ruiné le Mexique, l'Argentine. L'Argentine s'effondre à cause du FMI, parce que le FMI, qui n'arrêtait pas de serrer la gorge, qui n'arrêtait pas, comme aux Grecs aujourd'hui, d'en réclamer toujours plus. Et chaque fois que le gouvernement faisait un plan d'austérité, le FMI disait « ce n'est pas assez, il revenait à la charge ». Exactement ce que vous voyez se passer en Europe, jusqu'à ce que l'Argentine s'effondre. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que je voyais des similitudes sur lesquelles je veux attirer l'attention. Premièrement, c'est un système de politique libérale et ultralibérale. Deuxièmement, ce sont des alternances sans fin droite-gauche. Et chaque fois, le dernier gouvernement en place, c'est un gouvernement de gauche, type Papandréou en Grèce, qui se fait élire avec un programme un peu moins droitier que d'habitude, et qui, à peine arrivé au pouvoir, dit « bon, on peut pas ». Parce que la note triple A, parce que ceci, parce que cela. Et donc, un incident se produit. Au Venezuela, tout le monde, aujourd'hui, quand je vois les critiques sur Chavez, mais il ferait bien tous de se demander comment Chavez est arrivé là. C'est ça la vraie question. Et vous voyez que l'affaire au Venezuela, elle démarre d'un incident à l'intérieur d'une politique de rigueur mineure. C'est l'augmentation des tickets de bus. C'est ça qui déclenche une émeute. Une émeute qui est réprimée par l'armée. C'est pareil en Bolivie, c'est une histoire de tarifs de l'eau. En Équateur, c'est une histoire dans une élection, parce que le système est tellement pourri que les gens en ont marre. Et Correa a fait une chose extraordinaire. Il dit, écoutez, ce jour-là, il y avait des élections sénatoriales, des députés et des maires. Il dit, nous, on n'a qu'un candidat à la présidence. Et si je suis élu, je fous tout le monde dehors. Ce qu'il a fait, il a été élu au deuxième tour. Et il a fait une constituante immédiatement. De là, je déduis le canevas de mon livre sur un scénario historique qui est probabiliste. Hein, c'est celui-là. D'autres peuvent se produire, bien sûr. Ce scénario, c'est celui du bug où une société se bloque parce que sa démocratie est agonisante, comme c'est le cas en France, à la fois parce que le peuple s'est autodissous et ne vient pas voter, parce que les élites se sont oligarchisées, au lieu d'être la méritocratie habituelle, des gens qui sont là parce que c'est les meilleurs, dans leur branche, on y met des gens qui vivent ensemble, passent leurs vacances ensemble, sont pourris de fric, se marient entre eux, et c'est en gros...
tout pouvoir confondu.
Bien sûr, les médiacrates, les oligarques financiers, tout ça, c'est le même monde qui vit ensemble et se tient par la barbichette. Pour faire un bloc, je dirais, c'est la bande du Fouquet's, comme disent les communistes, plus le Club Le Siècle, dont j'ai appris l'existence récemment par Pierre Carl. Moi, je ne croyais même pas que ça existait. J'ai dit non, mais je croyais que c'était un gag et qu'il ne m'interrogeait que pour me prendre un peu un piège dans un piège paranoïaque.